majesté, à toi la majesté. Seigneur, mon Dieu, pardonnez-moi, je suis fatigué. Je commence ce chant, je ne sais pas continuer. Je suis fatigué. Seigneur, pardonnez-moi si je deviens vieux papy, fatigué, vite fatigable. Magnifique est le Seigneur, tout mon cœur pour le chanter. Magnifique est le Seigneur. Bonjour Steven, bonjour Jean-Christophe. Mon seul abri, c'est toi. Toujours mon cœur te chantera, car tu me délivres et chaque fois que j'ai peur, je m'appuie sur toi. Je m'appuie sur toi et dans ma faiblesse, le Seigneur me rend fort. Mon seul abri, c'est toi. Toujours mon cœur te chantera, car tu me délivres et chaque fois que j'ai peur, je m'appuie sur toi. Bonjour les amis, nous sommes à Ussel, chez Jacques le Grand et Hélène. Des personnes qui ont, avec d'autres, fondé cette assemblée de Ussel. Et nous venons de Mont-d'Or, où il y a une exposition publique, où nous avons passé la journée. Et Bénédicte, avec Lizzie Silberstein, Jacques Legrand et Roger Dessouza, sont restés à l'exposition publique, et moi j'étais dans les rues, tout content, de distribuer des petits papiers, des évangiles, de rencontrer des gens. Et normalement, 4h10, je rentrais pour repartir quand un couple était là, d'environ 84 ans et 85 ans, catholique. Et nous avons pu prier et chanter pendant 3 quarts d'heure, quasiment 1 heure, dans cette salle d'exposition biblique. C'était une rencontre formidable. Il y en a eu d'autres, et Dieu merci, il y a des âmes qui vraiment aiment Jésus-Christ. Et c'était le cas de ce couple. Bon, aujourd'hui, chers amis, nous sommes dans le psaume 119. Fondamentalement, cet homme qui écrit ce psaume, bon, semble-t-il, c'est David, mais je ne suis pas formel, parce que parfois, certains théologiens disent qu'il y a 3-4 auteurs dans les psaumes. Je ne me tracasse pas autant que ça là. Je sais que c'est le Saint-Esprit qui a dirigé cet auteur. Et si vous voulez, le verset 19, psaume 119, verset 19, « Je suis un étranger sur la terre. » Je suis un étranger sur la terre. C'est formidable de dire ça. Est-ce que vous n'avez pas l'impression, parce que vous aimez le Seigneur, que vous n'êtes pas fait pour ce monde? Vous n'avez pas cette impression qu'à un moment donné, des fois, on voudrait un autre monde, complètement, tout autre. Et soi-même, on voudrait tout autre. On voudrait tout autre. Oui. Et pourquoi cet homme dit « Je suis un étranger sur la terre » ? Au verset 54, il dit « Dans la maison où je suis étranger ». Donc, probablement avec l'épouse, les enfants, ou avec les croyants de l'époque, dans la maison où je suis étranger. Donc, le verset 54 et le verset 19 nous montrent que cette personne a tout de même une souffrance d'être dans ce monde. Et je pense que tout quiconque aime Dieu et a connu le chemin de Dieu et le suit, a cette impression qu'il n'est pas fait pour ce monde, ou que ce monde n'est pas le bon. Et il est clair, mes amis, que cet homme qui parle, supposons largement que c'est David, cet homme a se repose sur les promesses de Dieu. Au verset 74, 74 pour les Belges, ceux qui te craignent me voient et se réjouissent, car j'espère en tes promesses. Donc, nous voyons que cet homme est un témoin. Ceux qui te craignent me voient et se réjouissent. C'est un témoin. Il y a des personnes qui perçoivent qu'il n'est pas comme les autres. Il y a des personnes qui perçoivent que l'auteur qui parle ici se comporte et vit autrement, a un cœur et des pensées, des mœurs différentes et une nature différente. Et ils se réjouissent. Donc c'est un témoin qui a assuré quelque part de l'approbation des autres, même si les autres parfois ne suivent pas tout à fait ce même chemin. Et je vais vous dire que ça peut arriver à toute personne, et vous êtes peut-être dans ces cas-là, où vous savez que les promesses de Dieu sont éternelles et sont solides. À la fin du verset 74, 74, j'espère en tes promesses. Et au verset 49, souviens-toi de ta promesse à ton serviteur, puisque tu m'as donné l'espérance. Tu m'as donné l'espérance. Souviens-toi de ta promesse. Bon, on va voir pourquoi il dit ça. Pourquoi ce brave auteur, ce brave croyant dit je suis dans tes promesses. Je connais tes promesses. Elles me donnent l'assurance. Et au verset 176, 176, prenez votre Bible, évidemment. Je suis errant comme une brebis perdue. Cherche ton serviteur, car je n'oublie point tes commandements. Donc, il est dans un monde, il a l'impression d'être comme une brebis perdue, une brebis qui n'est pas en sécurité. Et pensez bien que dans Matthieu 18, versets 10 à 14, le bon berger va rechercher la brebis perdue. C'est Dieu. Pensez que dans Ézéchiel 34, l'Éternel est lui-même à la recherche de la brebis qui a besoin de lui, qui est perdue, dont les responsables religieux, les bergers humains, ne s'occupent pas. Et c'est clair qu'aujourd'hui encore, c'est le cas. Il y a plein de brebis qui sont sans berger ou dont les bergers n'ont pas un rôle consciencieux, plein de compassion et d'attention pour leurs brebis. Certains peuvent le dire de moi aussi, hein, je ne suis pas parfait, c'est pas évident. Donc, si vous lisez le psaume 123, vous pouvez remarquer ceci. Voici, je lève mes yeux vers toi qui sièges dans les cieux. Voici, comme les yeux des serviteurs sont fixés sur la main de leur maître, et les yeux de la servante sur la main de sa maîtresse, ainsi nos yeux se tournent vers l'Éternel notre Dieu, jusqu'à ce qu'il ait pitié de nous. C'est-à-dire qu'il exerce sa miséricorde. Le mot pitié en français n'est pas très représentatif. Hézet, c'est la miséricorde, c'est l'amour divin. C'est la compassion de Dieu. Et donc, Dieu a compassion de nous, il vit avec nous dans notre vie de tous les jours et il nous aime. Ainsi, nos yeux se tournent vers l'Éternel, notre Dieu, lorsqu'il ait pitié de nous, qu'il exerce donc sa miséricorde. Et pitié de nous, donc exerce ta miséricorde sur moi, et pitié de nous, car nous sommes assez rassasiés de mépris. Notre âme est assez rassasiée des moqueries, des orgueilleux, du mépris des hautains. Et lisez le psaume 1, vous verrez que c'est encore la même chose. Hein. Et surtout, ne t'assieds pas au banc des moqueurs et des railleurs, ne t'y frotte pas, parce que ça risque de te coûter cher. Ils ne t'aiment pas, donc ne va pas trop te frotter à ceux-là. Donc, la personne qui écrit ce psaume 119 est étranger sur la terre, verset 19. Je suis un étranger sur la terre. Qui est le grand étranger sur la terre? Ah, mes chers amis, ça, c'est fondamental. Ça a commencé, bien sûr, avec Abraham. Abraham n'a pas eu facile sur cette terre. Abraham n'a pas eu facile. Nous allons prendre Genèse. Genèse. Et nous allons, je pense, chapitre 12 ou 16, je vais voir, c'est un peu sous l'effet du soleil, je me suis promené dans les rues à distribuer des traités, à parler avec des gens, sous le soleil, sans rien sur la tête, j'avais pas de chapeau, rien. Enfin, heureusement, je mets de la pommade. Autrement, je serais en train de me gratter un crâne brûlé. C'est pas le cas. Bonne pommade, Eucérin, lait d'avoine. Si vous avez besoin de ça, vous en mettez, ça marche bien. Alors, jeunesse. Jeunesse. Notre brave Abraham est un homme de Ouran-Chaldée, dans une région très prospère, très riche, avec plein de divinités, plein d'occultisme, d'argent, de violence, etc. C'est là d'ailleurs d'où est né l'horoscope sur le mont, sur le dernier étage des ziggourats, des temples religieux. Bon, alors qu'est-ce qui se passe? C'est que Abraham ne se plaît pas sur la terre. Abraham ne se plaît pas. Et Dieu vient à son secours. Il va faire le contraire de tous les autres. À cette époque, en archéologie, en histoire de l'archéologie et de l'histoire des nations, on voit que tous les peuples venaient de l'ouest vers la Chaldée, vers le sud de l'Irak, qui était extrêmement riche. Eh bien, Abraham et son père et toute la famille vont faire le contraire. Ils vont aller dans le sens contraire des autres et ils vont aller vers le nord de la Syrie, à Charan ou Padam Aram, ça dépend les mots que vous voulez, mais ça veut dire la même chose. Et ensuite, Abraham tout seul avec Sarah et l'autre vont partir dans les déserts de Judée. L'Éternel dit à Abraham, chapitre 12 de Genèse, « Va-t'en de ton pays, de ta patrie, de la maison de ton père, dans le pays où je te montrerai. » Ça veut dire ceci. Tout ce que tu as reçu dans ton cœur, dans ta conscience, dans ton esprit, tu vas le mettre de côté. Je vais refaire ta vie, je vais te conduire là où tu ne connais pas, et je vais te conduire en ma présence. Je vais te conduire et je vais forger ta conscience. Je vais forger parce que sur cette terre, tu es un voyageur, et comme le dit dans Hébreux chapitre 11, l'auteur le dit, Abraham cherchait la patrie céleste, une patrie meilleure, parce que celle de ce monde ne le satisfaisait pas. Alors, évidemment, Dieu répond à cette insatisfaction, à ce manque, à ce cru. Dieu le conduit, et je ferai de toi une grande nation, je te bénirai, je rendrai ton nom grand, et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai tous ceux qui te béniront. Voilà, ça c'est une promesse formidable de la part d'Abraham. Alors, qu'est-ce qui se passe dans la vie d'Abraham, les amis? Qu'est-ce qui se passe? Plusieurs fois, il va quand même se comporter bien ou mal. Hein, c'est pas toujours la même chose. C'est pas toujours brillant, hein, même quand on a la confiance en Dieu, qu'on a la foi. Et ça se passe normalement bien, parce que Dieu est compatissant avec le pécheur. Alors regardons dans chapitre 15 de Genèse, versets 5 et 6. Après l'avoir conduit dehors, il dit « Regarde vers le ciel et compte les étoiles, si tu peux les compter. » Et lui dit « Telle sera ta postérité. » Telle sera ta postérité. Abraham eut confiance en l'Éternel qui le lui imputa à justice. Donc il a une telle confiance que Dieu lui pardonne ses péchés, sa misère, son cœur. Mauvais, il va le conduire sous la bannière de la sainteté, oui, de l'Éternel. Il va venir à son secours continuellement. Il va être le conducteur de sa vie, il va être son Seigneur et son Maître. Et il a imputé sa justice parce que Abraham avait conscience de sa misère, de son manque, de son indignité, et Dieu a vu son honnêteté, son authenticité à son égard. Il lui impute sa justice, ça veut dire qu'il lui pardonne sa nature pécheresse. Alors, c'est un cadeau que d'être mis, que Dieu vous prenne en confiance, chers amis. Faites la même chose, c'est le bon chemin. Le couple que nous avons rencontré à l'exposition biblique, qui ont 84 et 85 ans, ont, surtout l'homme, a confessé Jésus directement. Il est catholique. Il a dit une prière devant nous, qu'il a, à mon avis, dit toute sa vie. C'est véritablement la foi en Christ et dans sa divinité et dans la seigneurie de Christ. Vous voyez qu'on trouve à travers des chrétiens d'autres confessions, parfois des personnes sauvées. J'étais heureux d'entendre cela. Je l'avais rencontré dans la rue il y a 3 jours en distribuant des traités, en discutant avec les gens, et je lui avais dit que j'étais là, je pense, samedi, oui, ou vendredi, et je lui ai dit que j'étais là lundi. Bon, ben lundi, 4h10, il était là à 4h, et moi j'avais distribué, j'avais aussi prié, je m'étais reposé, j'avais lu ma Bible, j'avais préparé ce message, qui était déjà préparé, mais je le reprépare dans mon âme, dans mon cœur. Et pratiquement, cet homme, il a vraiment montré qui il était. Bien sûr, vous allez me dire, est-ce que s'il est catholique, il y a sûrement quelque chose qui ne va pas. Je suis un protestant non plus, je suis un évangile non plus. Il y a toujours quelque chose. Il y a toujours quelque chose à régler. Il y a toujours quelque chose que Dieu doit nettoyer et purifier. Ça serait trop beau. Nous serions trop prétentieux, trop arrogants. Et donc, quand Dieu impute sa justice, pardonne le péché, adopte la personne, il sait très bien qu'il doit la sanctifier. Il doit la prendre en main pour la conduire dans la vérité, dans la sainteté. Et donc, par exemple, cet homme, eh bien, il ne l'a jamais vu de sa vie, mais il y a 2 jours, il a trouvé un pendule, il l'a exercé sur la tête de sa femme parce qu'elle avait des problèmes dans son cervelet. Et le pendule tournait. Et je dis que mon grand-père et mon père avaient fini très mal avec la radiesthésie, que moi je l'avais pris, j'étais très costaud, très savant là-dedans, que j'avais tout abandonné. Parce que quand je voyais les lignes des mains des gens, je savais dire le passé, le présent, le futur. Et puis après, j'avais des obsessions sexuelles à propos des femmes mariées, et des jeunes filles. Donc je lui ai dit, c'est une voie très mauvaise qui vous détournera du Seigneur. Juste avant qu'on se rencontre, voilà que vous trouvez un pendule, vous le faites. Vous ne l'avez jamais fait de votre vie. Vous voyez, vous venez vers nous, vous venez vers une confession publique du Seigneur, ce que vous venez de faire. Regardez, l'ennemi vous attaque déjà. Et le péché revient. Donc, il faut être purifié sans cesse, c'est ça que je vous ai dit. Et nous avons chanté dans la salle d'exposition publique, « À toi la gloire » avec Bénédicte et sa femme. Il s'appelle Louis et Ginette. Je vais rester ami avec. Je vais correspondre avec. Je les aime. Jésus les aime, donc je ne peux pas m'empêcher de les aimer. Romains chapitre 4, verset 3. Cet homme qui a écrit le psaume 119 se base sur les promesses de Dieu. Donc les promesses faites à Abraham. C'est les promesses fondamentales qui guident la Bible. Alors, regardons ce que dit le Nouveau Testament des promesses faites à Abraham. Romains, chapitre 4, verset 3. C'est souvent dans l'Épître aux Romains, dans l'Épître aux Hébreux, que nous trouvons les explications, les interprétations logiques, les interprétations bibliques et divines des textes de l'Ancien Testament. Et il ne faut pas qu'on commence à inventer des stupidités, des fables à propos des textes bibliques. Le Nouveau Testament a des passages précis, des clés d'interprétation de l'Ancien Testament. Il faut de la patience, mais c'est comme ça. Il faut de la soumission à l'autorité de la parole. Alors, Romains chapitre 4, que dirons-nous donc qu'Abraham, notre père, selon la chair, dans l'espèce humaine, a obtenu? Si Abraham a été justifié, donc pardonné de ses péchés par les œuvres, c'est-à-dire son engagement vers Dieu, il a sujet de se glorifier devant Dieu, de son obéissance, de ses œuvres, mais il ne peut pas, non devant Dieu, dire qu'il a été pardonné de ses péchés parce qu'il a été bon et qu'il a obéi, parce que de souvent il a désobéi. Ses œuvres ne l'ont pas sauvé. Ses œuvres sont exemplaires, ses œuvres sont dignes, mais il y a eu des mauvaises œuvres. C'est le sens du verset 2. Car que dit l'Écriture? Abraham crut à Dieu et cela lui fut imputé à justice. Or, à celui qui fait une œuvre, le salaire est imputé. C'est un dû. Non comme une grâce, donc quelque chose de gratuit, mais comme une chose due. Donc, mais comme Dieu ne nous doit rien du tout, même si on fait des bonnes choses, et regardons les explications de Paul. Et à celui qui n'a fait point d'œuvre, mais qui croit en celui qui pardonne l'impie, le pécheur, sa foi lui est imputée à justice. Sa foi est suivie d'un pardon immédiat, solennel et définitif de la part de Dieu. Injustice, selon le pardon, la véritable sainteté de Dieu, qui pardonne le pécheur gratuitement. Donc, il y a les œuvres de David, de notre cher Abraham, mais il y a une impossibilité d'être sauvé par les œuvres. Mais les œuvres sont nécessaires quand on a été pardonné, quand on a la foi. Bon, de même, David exprime le bonheur de l'homme à qui Dieu impute la justice, donc le pardon de ses péchés, sans les œuvres, sans les mérites. Heureux ceux dont les iniquités sont pardonnées et dont les péchés sont couverts. Heureux l'homme à qui le Seigneur n'impute pas son péché. Psaume 32. Il disait psaume 32, c'est formidable, mille ans avant Jésus. Quel bonheur! Quel bonheur! C'est ce bonheur-là qu'a notre ami, l'auteur de psaume 119. Alors, mes chers amis, il n'est pas nécessaire de douter de Dieu lorsqu'on a donné sa vie à Christ, on a demandé pardon pour ses péchés. Il ne faut pas croire qu'on va être parfait et réussir tout. Il y aura du bon et du contre, du mauvais. Et c'est pas cette comptabilité-là qui doit nous menacer. Le pardon de Dieu a été acquis parce que nous avons réellement été pardonnés et le Saint-Esprit nous a donné la paix. Ne perdons pas cette paix que Dieu donne et ce pardon. Mais apprenons à obéir et lisons la parole de Dieu, prions pour que la correction de nos comportements, de nos pensées, de notre culture, tout ce qu'on a reçu de la famille, de nos expériences, tout soit sanctifié. La correction se fasse, c'est la sanctification. Prenons Galates chapitre 3, verset 6. Galates, l'épître aux Galates, ça vient du mot gaulois, parce que c'est des populations qui venaient de Gaule, quelques siècles avant. Galates chapitre... Attendez, il faut que je m'y retrouve. Galates chapitre 3, verset 6. Dans cette chambre où je suis, il fait très très chaud, les amis, pardonnez-moi. D'habitude, le Vélux est fermé, les rideaux sont mis, mais il fait tellement sombre, j'ai dû ouvrir, et c'est... Dehors, il fait 40 degrés. C'est l'étuve. À Mont-d'Or, où j'étais, non, c'est la montagne, il fait peut-être 28, 29 degrés, 27, et il y a du vent. C'est la montagne, c'est gai. Alors, Galates, chapitre 3, verset 6. Êtes-vous tellement dépourvu de sens? Après avoir commencé par l'Esprit Saint, voulez-vous maintenant finir par la chair? Donc, après avoir reçu le pardon et l'Esprit Saint de Dieu, vous voulez recommencer par la chair, c'est-à-dire avec des mérites, une religion de mérite, de culpabilité, de culpabilisation, d'orgueil, etc., ou de déception. C'est pas ça. Voulez-vous maintenant finir par la chair, par l'humain? Les mérites. Avez-vous tant souffert en vain? Il y a eu des persécutions. Vous avez cru en Christ. Vous avez demandé pardon pour vos péchés. Vous avez été pardonné de vos péchés. Vous avez reçu le Saint-Esprit. Vous êtes déclaré juste dans les cieux, dans le livre de vie. Mais pourquoi alors que vous retournez vers les 10 commandements de Moïse comme s'ils allaient vous sauver? Vous devez faire confiance à la grâce divine. C'est l'œuvre du Saint-Esprit qui vous conduira, vous sanctifiera et qui vous rappellera les enseignements de Jésus. Mais la loi de Moïse, elle est pour les pécheurs, pour leur révéler leur nature pécheresse. C'est pas pour vous. Deuxième à Timothée. Alors, celui qui vous accorde l'Esprit Saint et qui opère des miracles parmi vous, le fait-il donc par les œuvres de la loi ou par la prédication de la foi? Quand Jésus guérit quelqu'un, quand Jésus chasse un démon dans vos églises, est-ce que c'est parce que vous le méritez? Vous seriez meilleur que les autres? Non, pas du tout. C'est parce que la parole de Dieu est prêchée et que vous croyez en Christ, dans son sacrifice à la croix, dans sa résurrection, dans sa présence puissante et éternelle parmi vous. Et c'est lui qui opère des miracles, parce que vous répondez à quelque chose que Dieu vous demande, la foi. La première œuvre, c'est la foi. Comme Abraham crut à Dieu et que cela lui fut imputé à justice, donc il est déclaré solennellement devant les anges et devant les autorités célestes comme innocent, et son nom est inscrit dans le livre de vie, à justice, à cause de la gratuité, la grâce, la miséricorde de Dieu, eh bien, reconnaissez donc que ce sont ceux qui ont la foi qui sont fils d'Abraham. Que ceux qui ont la foi sont fils d'Abraham. Aussi l'Écriture, donc ce que je vous ai lu dans Genèse, Écriture prévoyant que Dieu justifierait les païens par la foi, a d'avance annoncé cette bonne nouvelle à Abraham, toutes les nations seront bénies en toi. Ainsi, ceux qui croient sont bénis avec Abraham le croyant. Chers amis, la grâce est suffisante. Deuxième aux Corinthiens. Alors, il est clair, chers amis, qu'il faut aller dans Jacques, chapitre 2, verset 33. Il fait tellement chaud que tout colle, excusez-moi, ça colle partout. Jacques 2. Excusez-moi, faut que je regarde. Hein. Où suis-je? Je regarde. Mes frères, que votre foi en notre glorieux Seigneur Jésus-Christ soit exempte de tout favoritisme. De tout favoritisme. On ne va pas regarder si quelqu'un est riche, plus malin ou plus saint les uns que les autres. Il n'y a personne qui a une faveur supérieure à celle des autres. Et qu'est-ce qu'il a dit? Qu'est-ce qu'il a dit? Mes frères, que sert-il à quelqu'un de dire qu'il a la foi s'il n'a pas les œuvres, donc le comportement de la foi? Cette foi peut-elle le sauver? Donc une foi qui n'est pas suivi d'un comportement qui reflète la foi, qui manifeste la véritable adhésion à Jésus-Christ, la véritable consécration et la confiance éternelle dans la croix. Et qu'est-ce que cette foi-là? Elle ne peut pas sauver. C'est de la religion. OK? Galates, Jacques, chapitre 2, verset 20, veux-tu savoir, ô homme, vain, vain, donc pris de vanité, que la foi sans les œuvres est inutile. Sans les œuvres, c'est-à-dire un comportement reflétant la foi. Mais ce n'est pas un comportement religieux pour mériter le salut. Abraham, notre père, ne fut-il pas justifié, donc pardonné par ses péchés, par les œuvres? Il y a réellement eu chez Abraham un comportement différent lorsqu'il s'est donné à Dieu. Et c'est un comportement qui était l'expression de la foi. Ce n'est pas un comportement qui était l'expression de la religiosité et d'un manque de confiance en Dieu qui se reposait sur soi-même, sur des actes religieux. Verset 23. Ainsi s'accomplit ce que dit l'Écriture. Abraham crut à Dieu et cela lui fut imputé à justice. Il fut appelé ami de Dieu. Ami de Dieu. Ami de Dieu. Il est déclaré ami de Dieu. Alors, tout cela, c'est un peu compliqué, ces épîtres. Hein. Je ne peux pas aller trop loin aujourd'hui dans ce sens-là. Autrement, je vais me distancer du psaume 119. Ami de Dieu. Ce jeune homme-là cherche à être ami de Dieu. Et il sait que Dieu a une faveur immense pour lui. Alors, psaume 119, heureux ceux qui sont intègres dans leur voie, qui marchent selon la loi de l'Éternel. Heureux ceux qui gardent ses préceptes, qui le cherchent de tout leur cœur. Donc, c'est pas une adhésion à des règlements, à la loi des 10 commandements, c'est plus large que ça. C'est une adhésion à la parole et à celui qui parle. Qui a la parole dans sa bouche? À Dieu. Et qui le cherche de tout leur cœur. Donc, on voit au verset 2 que qui le cherche, c'est Dieu. C'est Dieu qui compte. C'est pas moi et des lois pour pouvoir séduire Dieu. Comme Caïn. Caïn n'a pas réussi. Son offrande n'était pas acceptée par Dieu. Alors, Je le louerai dans la droiture de mon cœur, c'est quoi? Dans l'intégrité. Dans l'intégrité d'un cœur qui sait qu'il est pécheur, l'intégrité d'un cœur qui sait que Dieu pardonne le pécheur, qu'il aime le pécheur, qu'il n'aime pas les péchés. Comment le jeune homme rendra-t-il pur son sentier? En se dirigeant d'après ta parole. C'est pas la parole, c'est ta parole. Et sachez bien que Jésus a dit à Satan, dans Matthieu chapitre 4, l'homme vivra de toute parole sortie de la bouche de Dieu. Est-ce que vous comprenez la différence? Quand vous entendez, vous lisez l'évangile, c'est clair, vous devez dire, Seigneur, parle-moi, ton serviteur écoute, c'est toi qui me parles, je veux entendre ta parole, je veux t'entendre, tu es là, tu t'adresses à moi, je ne suis pas là rien que devant un livre, je suis devant toi, parce que tu es vivant et tu me parles. Alors, c'est pour ça qu'il dit, en se dirigeant, comment le jeune homme rendra-t-il pur son sentier, en se dirigeant d'après ta parole. Je te cherche de tout mon cœur. Ne me laisse pas m'égarer loin de tes commandements. Donc c'est Dieu qui le garde. C'est pas lui qui sait se garder. On le voit bien. Il n'est pas orgueilleux, cet homme. Je serre ta parole dans mon cœur. Ta parole. Pas ma parole ou la parole. Afin de ne pas pécher contre toi. Nous voyons bien que cet homme a une véritable déférence, une véritable humilité devant l'Éternel. Devant l'Éternel. Au verset 29, cet homme, ce brave homme dit, à la fin du verset 29, « Accorde-moi la grâce de suivre ta loi. » La grâce. Sans la grâce de Dieu, je ne peux pas accomplir la volonté de Dieu. Donc, il est très humble. Il est très humble. Au verset 32, « Je cours dans la voie de tes commandements. » Oui, je cours. C'est-à-dire, je cherche à saisir, je cherche à mettre en pratique. Car tu élargis mon cœur, c'est-à-dire, tu opères une grâce formidable en moi qui fait que j'aime ta parole et tu me donnes des forces, tu me donnes de l'espérance, de la foi pour la mettre en pratique. Enseigne-moi, verset 33, Éternel, la voie de tes statuts. Enseigne-moi le chemin. Donne-moi la clé pour connaître et aimer ta personne et faire ta volonté. C'est ça que ça veut dire. Donne-moi l'intelligence pour que je garde ta loi. Donc, tout clairement, c'est faire la volonté de Dieu qui est derrière, à travers tout ce texte. Au verset 17, « Fais du bien à ton serviteur pour que je vive et que j'observe ta parole. Fais du bien à ton serviteur pour que je vive et que j'observe ta parole. » Donc, faire du bien, c'est de Dieu que vient d'en haut la grâce divine tous les jours pour opérer en nous le miracle d'accomplir sa volonté. Donc, on est vraiment dans un discours de grâce tel que Abraham l'avait compris. Et au verset 35, « Conduis-moi, c'est le directeur, c'est Dieu. » Il n'est plus question de vanité et de présomption religieuse. Alors, au verset 38, « Accomplis envers ton serviteur ta promesse. » Mais quelle promesse, les amis? Quelle promesse? Alors, nous reprenons Genèse, Genèse 13, verset 16, mais nous allons retourner plus loin après. 13, verset 16, je rendrai ta postérité comme la poussière de la terre, en sorte que si quelqu'un peut compter la poussière de la terre, ta postérité sera aussi comptée. Lève-toi, parcours le pays dans sa longueur et dans sa largeur, car je te le donnerai. Lève-toi, ça veut dire, suis-moi. On ne court pas devant Dieu. C'est pas à Dieu de nous suivre. Comprenez bien. Dans la religion, on court devant. On demande à Dieu de nous suivre. Dans la grâce, on est derrière. Viens, suis-moi, dit Jésus. Alors, prenons 15, verset 5. Genèse 15, verset 5 et 6. Regarde vers le ciel, compte les étoiles si tu peux les compter. Et donc, c'est-à-dire, c'est impossible. Tu ne peux pas les compter, mais tu ne pourras pas imaginer la puissance de ma grâce. Tu ne pourras pas imaginer le cadeau que je te fais. Mais il est là. C'est un cadeau infini. Mon salut est infini. Et je te l'assure, je te le donne. Tu le découvriras au fur et à mesure du chemin, je te le révélerai. Abraham eut confiance en l'Éternel qui lui imputa justice. Notre confiance dans la grâce divine est la clé de notre vie. Rien d'autre. Ne me dites pas qu'on a tous le même Dieu et toutes les tours de religion se valent. Ce n'est pas vrai. Jésus est le seul qui était sans péché, qui est rempli du Saint-Esprit, qui a donné sa vie sur la croix pour moi, pour vous, et qui, après ressuscité, confie la grâce du ciel aux croyants qui vivent sa parole. Nous ne sommes pas dans le domaine des obligations, des règles, des prosternations, des jeûnes, des prières. Nous sommes dans le domaine d'une vie confiante, heureuse, paisible, obéissante. Et dans la joie d'obéir. Est-ce votre cas? Je vous le souhaite. C'est pour ça qu'au verset 36 de psaume 119, « Incline mon cœur vers tes préceptes, c'est-à-dire vers ce que tu me dis. Incline mon cœur. Je dois lâcher mon orgueil, mon moi. » Alors, nous allons bien sûr aller plus loin. 17, verset 7 et verset 9. Genèse, chapitre 17, verset 7. « J'établirai mon alliance entre moi et toi et tes descendants après toi, selon leur génération. Ce sera une alliance perpétuelle, en vertu de laquelle je serai ton Dieu, celui de ta postérité après toi. Je te donnerai et à tes descendants après toi le pays que tu habites comme étranger. » Donc, voici ce que a dit ce brave jeune homme. « Je suis comme un étranger sur la terre. » Je vous rappelle, psaume 119, dans la maison, je suis étranger. Et il est clair que, oui, le vrai croyant est étranger aux valeurs de ce monde. Il est étranger aux mensonges, aux tricheries, à toutes les combines, à l'impureté sexuelle et tout le reste. Il est étranger. Psaume 119, verset 9, « Je suis un étranger sur la terre. » Ce n'est pas un martien. Non, c'est quelqu'un qui est en Dieu. Ben, rappelez-vous ce que Jésus a dit à Pilate. Oui, je suis roi, mais mon royaume n'est pas de ce monde. Je suis venu dans ce monde pour témoigner de la vérité. Dieu témoigne de sa vérité dans le cœur de celui qui a fait confiance à Jésus. Dieu témoigne d'une vérité totale et révèle sa vérité à celui qui aime Jésus. L'apôtre Jean dit dans son épître, celui qui a le Fils a le Père. Donc, et tout quiconque nie le Fils, nie le Père. Vous comprenez bien que toutes les religions ne sont pas les mêmes. C'est impossible. On dirait ça à un cheval de bois, il donnerait un coup de patte. Alors, chapitre 17, verset 7 et verset 9. Dieu dit à Abraham, « Toi, tu garderas mon alliance, toi et tes descendants après toi, selon leur génération. » Tu garderas mon alliance, c'est-à-dire que c'est Dieu qui vient du ciel faire alliance avec Abraham. Après leur pardonné péché, Dieu va conduire sa vie et il exerce une alliance. Une alliance, un contrat d'union, de communion entre Abraham et lui. Et c'est cela qui se passe chez quelqu'un qui accepte Jésus. C'est un contrat de confiance entre le Père des cieux et moi-même. Parce que Jésus m'enseigne ce que le Père des cieux pense et veut de moi et a fait pour moi à la croix. L'alliance est nécessaire. L'alliance est fondamentale dans la vie d'un croyant. L'alliance, c'est quelque chose qui est à respecter. C'est un contrat passé avec le Dieu des cieux, sous l'autorité de Jésus, sous son sacrifice à la croix, sous sa résurrection, dans le Saint-Esprit. C'est une alliance à respecter. On a du respect pour ce que Dieu nous donne lorsqu'on a compris sa grâce et son salut. Et donc, on essaye, autant que se peut, de faire sa volonté. Dans le chapitre 18 de Genèse, voici ce qu'il a dit. Verset 17. L'Éternel dit, cacherai-je à Abraham ce que je vais faire? Abraham deviendra certainement une nation puissante et grande, et en lui seront bénies toutes les nations de la terre. Car je l'ai choisi, afin qu'il leur donne à ses fils et à sa maison, après lui, de garder la voie de l'Éternel. En pratiquant la droiture et la justice, et qu'ainsi l'Éternel accomplisse en faveur d'Abraham les promesses qu'il lui a faites. Garder la voie de l'Éternel en pratiquant la droiture et la justice. La droiture, c'est l'intégrité, le respect de Dieu et de sa volonté. Et il y a quelque chose, en pratiquant la justice, c'est-à-dire l'obéissance, non pas mesquine, avec de la crainte de Dieu, mais dans une immense confiance, parce que le papa m'a sauvé et je l'aime. Il m'a sauvé de l'enfer, il m'a sauvé de la perdition, il m'a sauvé parce que le sacrifice de Jésus est suffisant pour payer mes dettes, mes horribles péchés de ma vie. Oui, mes péchés ont été portés vers Jésus à la croix. Et oui, mes péchés sont pardonnés si j'accepte le sacrifice de Christ. Oui, c'est pour ça que beaucoup de religions nient le sacrifice de Jésus à la croix. Alors, il n'y a pas de salut. Il n'y a que de l'angoisse, de la crainte, de la terreur spirituelle. Alors que Dieu est un Père et il nous aime. Il ne veut pas nous laisser dans la terreur et l'angoisse. Il veut nous donner sa paix, sa consolation. Alors, pensez bien, quand vous lisez le psaume 119, que cet auteur est sous les promesses faites à Abraham et qu'il les a comprises. Et donc, c'est un homme qui se confie dans la parole de Dieu, qui se confie dans ce que Dieu lui dit, dans son âme. Verset 49, psaume 119, verset 49, « Souviens-toi de ta promesse à ton serviteur, puisque tu m'as donné l'espérance, l'assurance d'être sauvé, et l'assurance d'aller jusqu'à la cité céleste, la patrie de Dieu, la patrie parfaite qui un jour descendra du ciel sur la terre. » Apocalypse 21 et 22. Verset 50, « C'est ma consolation dans ma misère, car ta promesse me rend la vie. » Ce sont des versets clés. Sinon, on lit ce psaume comme un psaume ordinaire. Bon, on va lire ça comme un beau roman, c'est tout. Quelque chose de très religieux. Ça va bien plus loin que ça, mes amis. Ça va bien plus loin que ça. Ça se repose sur l'alliance, le contrat fait avec Abraham et Dieu. Alors, il est clair que quand je vais vous lire quelques versets du psaume 119, verset 73, 73 pour les Belges, 71, il m'est bon d'être humilié. C'est-à-dire, il est bon que j'apprenne à me voir comme pécheur, à me repentir, pour t'obéir, pas pour avoir peur, pas pour être dans l'angoisse, pas pour douter de ton amour, non, pour changer. Il m'est bon d'être humilié, afin que j'apprenne tes statuts, c'est-à-dire ta volonté. Mieux vaut pour moi la loi de ta bouche que 1000 objets d'or et d'argent. Évidemment, qu'est-ce qui est le motif essentiel de beaucoup de religions? C'est l'or et l'argent. Soin d'or religieux. Beaucoup d'hommes aiment les biens, les champs, les maisons, les terrains, les spéculations. Ah oui, ils aiment Dieu, oui. Mais on ne peut pas aimer les deux. Jésus l'a dit, on ne peut pas avoir deux maîtres. Dieu ou Mammon, c'est le nom phénicien du Liban à l'époque, pour dire le démon de l'argent. Parce que c'est un démon, hein, vous le voyez bien, il conduit la terre à sa perte. Verset 73, 73, « Tes mains m'ont créé, elles m'ont formé. » Il a de l'amour pour dire ça à Dieu. Il a de la reconnaissance. Donne-moi l'intelligence pour que j'apprenne tes commandements. Pourquoi? Il est bête, il est stupide. Non. Il est charnel, il est humain. Comment peut-il comprendre tout ce qui vient, qui est en Dieu? Il faut que Dieu lui montre, lui fasse comprendre. Alors, regardez, qu'est-ce qu'il dit? Ceux qui te craignent me voient se réjouissent, car j'espère en tes promesses. Donc, ceux qui sont humbles me connaissent. Ils voient bien que je suis humble aussi et que je me repose sur toi, Seigneur. Donc, j'ai des frères et des sœurs, finalement, j'ai des bons amis. Sincères et vrais, les plus humbles que je rencontre, qui sont les meilleurs. Je sais, ô Éternel, que tes jugements sont justes, donc saints. C'est par fidélité que tu m'as humilié. C'est par fidélité que tu m'as humilié. C'est-à-dire, humilitas, humus, ce sont des mots latins qui veulent dire quand les feuilles de l'arbre pourrissent et tombent à terre, ou quand la paille sous les pas de la bourrique ou de la vache pourrissent pour faire du fumier, on met ça dans le champ, ça donne des bons légumes, des bonnes récoltes. L'humus est nécessaire dans ma vie. Il y a des choses qui doivent mourir pour développer la croissance. Et le péché doit mourir pour développer ma croissance spirituelle. Comment pouvez-vous, comment puis-je concilier à la fois la foi et l'amour du péché? C'est impossible. Il doit mourir. Paul le dit dans Galates chapitre 2, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. J'ai été crucifié en Christ. C'est-à-dire, ma nature pécheresse est crucifiée à la croix. Mais je suis tellement aimé que l'amour de Dieu est sur moi et je vais vivre éternellement. Mais mon péché, ma nature mauvaise est crucifiée. Et j'y consens, elle sera crucifiée tous les jours. Que ta bonté soit ma consolation, c'est-à-dire que ton pardon qui m'a toujours été donné et qui s'exerce toujours, soit mon bonheur. Que tes compassions viennent sur moi pour que je vive. Manifeste ton amour, manifeste ton pardon, manifeste ta confiance à mon égard. Relève-moi parce que je ne suis pas brillant. Ne me laisse pas dépérir et être désolé et triste parce que je suis pécheur. Je suis faible. Et je retombe toujours dans les mêmes ornières. Mais non, Seigneur, montre-moi que tu m'aimes. Vous savez, quand un enfant a fait des tas de bêtises dans une maison, on ne peut pas l'engueuler tous les jours et le frapper et le punir. Il va devenir quoi? Un être malheureux. Il y a parfois des sanctions nécessaires, mais il faut montrer de l'amour. Quand l'enfant se sent aimé, souvent il se corrige beaucoup mieux. C'est dans l'amour qu'on corrige un enfant. Et s'il y a une correction à apporter, une petite fessée ou une sanction à faire, mais il faut d'abord l'amour. C'est la même chose avec Dieu avec nous. Nous avons aussi besoin de son amour. Et il veut nous le donner. Alors, n'ayons pas une attitude intérieure perturbée et perturbable parce que nous restons comme avant, on n'a pas vraiment confiance dans l'amour divin. Jésus l'a dit, demeurez dans mon amour. Celui qui garde ma parole demeure dans mon amour. Et celui qui demeure dans mon amour, dans ma parole, mon Père et moi, nous l'aimerons, nous viendrons faire notre demeure en lui. Il est clair que le Dieu de Jésus-Christ, le Dieu de l'Évangile, c'est un trésor inestimable pour le bonheur de l'homme. Bien que nous restons imparfaits, jusqu'au jour où nous le voyons face à face. Et comme dit Jean, dans sa première épître au chapitre 2, lorsque nous le verrons face à face, nous lui deviendrons semblables. Comme dit Paul dans Thessaloniciens, les deux épîtres aux Thessaloniciens, à la fin, il dit, il est fidèle, ce qu'il a commencé en moi, il l'achèvera. C'est formidable de savoir que Dieu va achever en nous ce perfectionnement qu'on ne peut pas faire par soi-même, mais qu'on désire tant. Et on fait quand même un peu son possible. Hein. On ne va pas dire qu'on si on ne fait rien du tout, là, on se moque de Dieu. Alors, l'intelligence, c'est quoi? C'est de savoir, de connaître la compassion de Dieu, de connaître sa grâce. C'est ça l'intelligence. C'est de comprendre sa compassion, c'est de comprendre son, de rester humble. Au verset 101 du psaume 119, je retiens mon pied loin de tout mauvais chemin, afin de garder ta parole, et de garder la communion avec toi, évidemment. Au verset 105, ta parole, donc, mais considérez la parole de sainteté, pas les 10 commandements de Moïse, des règlements, la parole de sainteté, d'amour de Dieu. Ta parole est une lampe à mes pieds, et une lumière sur mon sentier. Au verset 130, la révélation de tes paroles est claire. Elle donne de l'intelligence aux cœurs simples, aux âmes simples. C'est à un point que cet homme est si sincère avec Dieu qu'il dit, tes préceptes, donc tes paroles, sont pour toujours mon héritage. Ils sont la joie de mon cœur. Vous voyez bien qu'il y a un mariage entre cet homme et Dieu, et une alliance. C'est un véritable mariage réussi qui s'exprime là. Alors, il est mis ceci. Verset 132, tourne vers moi ta face, et pitié de moi. Je ne me tourne pas le dos, Seigneur. Si tu me tournes le dos, je suis malheureux. Je veux te connaître, je veux t'aimer. Seigneur, c'est vraiment une relation d'amour. C'est pas comme dans beaucoup de couples, dans le lit, l'autel du dos tourné. Et puis après, de la chambre à part. Avec Dieu, l'alliance est magnifique. Au verset 135, fais luire ta face sur ton serviteur. Verset 140, ta parole est entièrement éprouvée, c'est-à-dire, elle est belle. Elle a été, elle est authentique. Ton serviteur l'aime. Je suis petit et méprisé par les autres humains qui s'en foutent bien de Dieu ou qui pratiquent une religion, une façade et puis qui font n'importe quoi. Mais moi, je n'oublie pas tes ordonnances, ta justice, c'est-à-dire ton pardon. À mon égard, ton amour pour moi, ta confiance en moi parce que j'ai été pardonné, mais tu gardes, tu mets ta confiance sur moi. Tu as mis ton pardon sur moi, tu mets ta confiance sur moi. Je suis ton enfant, ta brebis. Ta justice est une justice éternelle. Ta loi est la vérité. Verset 160. Le fondement de ta parole est la vérité. Verset 165. Il y a beaucoup de paix pour ceux qui aiment ta loi. C'est-à-dire ta parole, ta personne. Psaume 125, verset 4. Je vais lire tout le psaume 125, il est formidable. Ceux qui se confient en l'Éternel sont comme la montagne de Sion, une colline qui est juste à côté de Jérusalem. Elle ne chancelle point, elle est affermie pour toujours. Des montagnes entourent Jérusalem. Ainsi l'Éternel entoure son peuple, et maintenant et à jamais. Car le sceptre de la méchanceté ne restera pas sur le lot des justes et pardonnés. Le sceptre de la méchanceté, donc les autorités des nations, des pouvoirs politiques, des pouvoirs religieux, ne fera pas toujours du mal aux enfants de Dieu. Afin que les justes ne tendent pas les mains vers l'iniquité, afin que ceux qui sont à Dieu ne se détournent pas, n'aillent pas vers le diable et les œuvres du monde. Éternel, répands tes bienfaits sur les bons, sur ceux dont le cœur est droit. Éternel, répands tes bienfaits sur les bons. Bon, parce que Dieu me rend bon. Pas bon parce que je le suis. Alors, il y a beaucoup de paix pour celui qui aime ta loi. Psaume 119, verset 165. Au verset 176, 176, je suis errant comme une brebis perdue, cherche ton serviteur. C'est pas marrant sur la terre, hein? On a beaucoup d'épreuves et des fois, comme on dit, on dérape. On pète les plombs, on ne s'y retrouve plus. Et pourtant, si Dieu m'aime, comment ça se fait? Eh bien, il faut que se manifeste, à un moment donné, des signes de Dieu dans ma vie. Si réellement j'ai donné ma vie à Dieu, j'ai été pardonné, même si je dérape, je suis dans la semoule, comme on dit, je n'arrive plus, eh bien, le berger va venir à mon aide. Et le berger est tout-puissant pour revenir chercher sa brebis. Matthieu 18, verset 10. Gardez-vous de mépriser un seul de ces petits, donc les brebis, les petits et les enfants pardonnés du péché, car je vous dis que leurs anges dans les cieux voient continuellement la face de mon Père qui est dans les cieux. Donc, les enfants de Dieu pardonnés ont des anges autour d'eux. Déjà une chose à savoir. Des êtres puissants qui nous gardent. Car le Fils de l'homme, Jésus, est venu sauver ce qui était perdu. Que vous en semble-t-il? Si un homme a 100 brebis, et que l'une d'elles s'égare, ne laisse-t-il pas les 99 autres, 99 autres, sur les montagnes, donc dans la société, pour aller chercher celle qui s'est égarée? Et s'il la trouve, je vous le dis, elle lui cause plus de joie que les autres qui ne se sont pas égarés. De même, ce n'est pas la volonté de votre Père qui est dans les cieux qu'il se perde un seul de ses petits. Sachez bien que Jésus et Dieu le Père ont une immense joie à venir vous rechercher, à venir me rechercher. Oui. Parce qu'une brebis, ben, des fois, ça se perd. Hein. On est comme ça. On est comme ça, les amis. Alors, Ézéchiel 34. 6 siècles, 620, 580 avant Jésus. Ézéchiel 34. Puisque Jésus l'a dit, et qu'il est le berger de nos âmes, on va aller après dans d'autres textes, regardons déjà ce que le prophète Ézéchiel, de la part de Dieu, a dit de Jésus-Christ, du vrai berger. Ézéchiel 34. Écoutez bien, prophète, écoutez bien, berger. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Malheur aux bergers, parce qu'ils se paissaient eux-mêmes, c'est-à-dire ils profitent de tout par la religion. Les bergers ne devaient-ils pas paître le troupeau, donc s'occuper des brebis? Vous avez mangé la graisse, vous vous êtes vêtu avec la laine des brebis, vous avez tué ce qui était gras, vous n'avez point fait paître les brebis. Vous n'avez pas fortifié celles qui étaient faibles, guéri celles qui étaient malades, pansé celles qui étaient blessées. Vous n'avez pas ramené celles qui s'égaraient. Cherchez celles qui étaient perdues, mais vous les avez dominées avec dispersion et vous les avez dispersées avec dureté. Elles se sont dispersées parce qu'elles n'avaient point de berger. Elles sont devenues la proie de toutes les bêtes des champs. Et dans le texte en grec, eh bien, on voit que c'est démoniaque, les démons. Mon troupeau est dispersé sur toute la face du pays. Nul n'en prend souci, nul ne le cherche. Les amis sur la terre, les hommes religieux ne s'occupent pas vraiment. Ils s'occupent de leur institution et de leurs avantages. Ils s'occupent de garder une image de marque. Ils sont séducteurs et menteurs. Regardez Jésus. Jésus n'a jamais été comme ça. Jamais. Il a toujours pris souci des âmes. Alors, au verset 11, vous devriez lire tout le chapitre 34, c'est éloquent pour vous, et tout le chapitre 10 de Jean, et le psaume 23, et le psaume 1. Vous avez de quoi faire, et ça fera un grand bien à votre âme comme à moi. Ézéchiel 34, verset 11, ainsi parle le Seigneur l'Éternel. J'aurai soin de moi-même de mes brebis, j'en ferai la revue, comme un berger inspecte son troupeau quand il est au milieu de ses brebis éparses. Ainsi je ferai la revue de mes brebis. Je les recueillerai de tous les lieux où elles ont été dispersées au jour des nuages et de l'obscurité. Je les retirerai d'entre tous les peuples. Je les rassemblerai des diverses contrées. Je les ramènerai dans leur pays, etc. C'est moi qui fais paître mes brebis. C'est moi qui les fais reposer. Je chercherai celles qui étaient perdues. Je ramènerai celles qui étaient égarées. Je panserai celles qui est blessées. Je fortifierai celles qui est malade. Je te détruirai celles qui sont grasses et vigoureuses. Je veux paître mes brebis avec justice. Chers amis, soyez bénis si vous acceptez un tel berger. Alors, je vous raconte une chose. Vous n'êtes pas obligé de me croire, mais j'allais vers Liège avec ma future belle-fille et ma petite-fille de 4-5 ans, Noémie, un 20 de plus maintenant, vers Liège chercher Benoît et Jean-Philippe à leur école à l'arrêt tout près de Verviers, Liège. C'est pas. Lorsque sur l'autoroute, le grand viaduc de Remouchamp qui va vers Liège, un kilomètre ou deux avant que je descende, vers Remouchamp pour aller vers l'école, les chercher, je vois une grosse jeep qui s'arrête sur le pont. C'est un long pont de plus de 600 mètres, mais 80-100 mètres de haut. Et tout de suite, le Seigneur m'instruit dans mon cœur, cet homme s'arrête pour se jeter du pont. Je me suis dépêché, j'ai bloqué l'auto devant, et j'ai couru, j'ai attrapé le bonhomme, j'ai tenu après les rambardes du pont pendant 2 heures et demie. 2 heures et demie, à louer, à prier le Seigneur, à invoquer le Seigneur, à prier. Et le tenir, il était plus costaud que moi, les amis. Mais le Seigneur m'a donné force pour le tenir. Et puis à un moment donné, il s'est mis à pleurer, et il m'a dit pourquoi il voulait se jeter en bas du pont. Il voulait se jeter en bas du pont, parce que sa femme avait été tellement mauvaise, elle avait dépensé l'argent, il avait fait plusieurs faillites. C'était un marchand de bois courageux. C'était sa 3e faillite. Alors, à la 3e faillite, il s'est découragé, il a pris une jeune fille et il lui a fait un gosse. Et dans sa vie, c'est quelqu'un qui, sans doute, qui avait été éduqué avec des principes. Il se reprochait d'avoir eu cette relation avec cette jeune femme et d'avoir engendré un enfant avec une autre femme. Et il s'en sentait coupable et il voulait se jeter du pont. Du haut du pont. Il est clair qu'il était mort. C'était trop haut pour atterrir en douce. Après coup, quand il a parlé ainsi, qu'il a pleuré, j'ai dit « on va dans votre voiture ». J'ai conduit la voiture, nous avons été à un parking plus loin, et je lui ai donné Jean chapitre 10. Alors j'ai dit « mon ami, voilà ce qui va se passer. Je dois aller chercher mes fils, avec ma belle-fille et ma petite-fille, je vais chercher mes fils. Je reviendrai dans 1 heure ou 2. Si tu veux te suicider, tu retournes au pont. Si tu as lu le texte 2-3 fois, Jean chapitre 10, j'ai le bon berger, je repasse, si tu veux vivre. » Quand je suis revenu, cet homme n'était plus brisé. Il avait un visage lumineux, heureux. Heureux, les amis, heureux. Heureux. Je l'ai revu 6 mois après, il était toujours heureux. Il avait tellement été heureux en lisant ce texte, en ayant la consolation du berger, de Dieu qui était là. Il était là. J'avais tellement prié et supplié Dieu pendant 2 heures et demie en le tenant, que Dieu a répondu à la prière. Dieu répond à la prière de celui qui a la foi. Et pour cet homme, qui allait se détruire et faire encore un enfant malheureux sur la terre en plus. Faire 2 femmes malheureuses, éventuellement. Il avait trouvé le sentier de la justice, du pardon, de la confiance. Il avait trouvé de tout son cœur, il avait rencontré Dieu, il devenait un accueillant, un serviteur de la grâce. Il était un récepteur. Un récepteur, les mains tendues vers le ciel, de la grâce divine. Et il avait trouver le vrai Dieu. Il n'était plus dans la culpabilité, il n'était plus dans le malheur, et 6 mois après, il avait toujours la même tête. Il déménageait, je savais à peu près où il habitait, mais le Seigneur m'avait dit dans mon cœur, ne t'en occupe pas, je m'en occupe. Donc, 6 mois après, je passe avec un jeune drogué, schizophrène, qui avait accepté le Seigneur dans l'auto, et je dis, David, on va quand même aller voir à tel endroit, je sais qu'il y a quelqu'un qui a cru en Jésus-Christ, on va aller voir s'il est là. Et le monsieur est en train de charger une camionnette, une remorque, il déménageait. À 2 heures près, je ne l'aurais jamais revu. Et il me voit, je descends de l'auto, on se prend dans les bras. Ah, oh, monsieur, qu'est-ce que je suis heureux de vous voir. J'ai toujours votre livre, je le lis. C'est pas le psaume 119? Mais bien sûr que si, chers amis. C'est la grâce toute-puissante venue par un serviteur, par un enfant de Dieu comme moi, mais ça peut être quelqu'un d'autre. Je suis pas indispensable, je suis utile. C'est différent. Vous pouvez devenir quelqu'un d'utile pour Dieu, mais pas d'indispensable. Dieu peut choisir quelqu'un d'autre. Et ce qu'il y a, c'est que la parole, le chapitre 10 de Jean, l'avait guéri. La parole guérit. Jean chapitre 10. Nous y allons tout de suite, et puis j'en termine aujourd'hui. Pourquoi nos amis de Ussel font-ils une exposition biblique? Pourquoi les chrétiens évangéliques font-ils des expositions bibliques? Pour montrer des vieux livres? Pour dire, regardez, c'est beau les vieux livres? Non! C'est pour trouver cette parole qui guérit. C'est trouver cette grâce en Jésus. Donc, Jean chapitre 10. Oui?
Ça a l'air de manger.
Verset 11. Je suis le bon berger. Le bon berger donne sa vie pour mes brebis. Mais le bandit, qui n'est pas le berger, et à qui n'appartiennent pas les brebis, voit venir le loup, abandonne les brebis et prend la fuite. Donc le loup, c'est Satan, évidemment. Et les bandits, les mercenaires, ce sont des hommes religieux qui ne connaissent pas Dieu. Ils n'ont que le mot de Dieu dans la bouche. C'est rien du tout. Et le loup les ravit et les disperse. Clairement, Satan est en train de provoquer la perte de cet homme. Il allait se tuer. Le bandit s'enfuit, le mercenaire s'enfuit parce qu'il est bandit, il est mercenaire, il ne se met pas en peine des brebis. Jésus dit, je suis le bon berger, je connais mes brebis, elles me connaissent. Comme le Père me connaît, que je connais mon Père, je donne ma vie pour mes brebis. Il l'a fait à la croix. Il a tout payé pour moi. Misérable que je suis. C'est pas brillant nos vies, n'est-ce pas? Quand on fait le total, hein? Comment peut-on accéder à Dieu avec tout ce qu'on a fait, tout ce qu'on cache, quand on ne le dit pas même? Alors, je connais mes brebis, elles me connaissent, comme le Père me connaît, et comme je connais le Père, je donne ma vie pour mes brebis. J'ai encore d'autres brebis à travers le monde, qui ne sont pas de cette bergerie, qui ne sont pas d'Israël. Celles-là, il faut aussi que je les amène. Elles entendront ma voix. Il y aura un seul troupeau, un seul berger. Le Père m'aime parce que je donne ma vie afin de la reprendre. Personne ne m'ôte la vie. Je la donne de moi-même. J'ai le pouvoir de donner la vie. J'ai le pouvoir de la reprendre, d'aller à la croix. Tel est l'ordre que j'ai reçu de mon Père. Bien sûr, on l'a pris pour des fous. Pour un fou. Au verset 27, Jean 10, verset 27, mes brebis entendent ma voix, je les connais, elles me suivent. Je leur donne la vie éternelle, elles ne périront jamais, elles ne seront jamais séparées de Dieu, et personne ne les ravira de ma main. Elles sont à jamais unies à Dieu dans l'alliance que Dieu avait promise à Abraham. L'alliance d'Abraham, c'est ça. Mon Père qui me les a donnés est plus grand que tous. Donc tous les rejets, toutes les institutions religieuses, toute la religion, personne ne peut les ravir de la main de mon Père. Chers amis, soyez bénis. J'ai fini ce message d'aujourd'hui. Regardez le psaume 119, méditez-le, mais n'oubliez jamais les autres textes que je vous ai donnés. Je vous aime de tout cœur. C'est très exigeant pour moi 3 fois par semaine depuis 3 ans. Très exigeant. Mais j'aime que vous ne tombiez pas en bas du pont, dans le désespoir, dans l'angoisse, dans votre autocondamnation, dans les attaques de Satan. Aucun péché ne peut vous empêcher d'être sauvé par Jésus-Christ. Déposez tout à Jésus. Paul l'a dit, qui était un assassin, un fanatique religieux. Là où le péché a abondé, la grâce a surabondé. C'est quoi la grâce? Le pardon gratuit. Oh, c'est facile. Je me rappelle d'une discussion avec un jeune musulman. très religieux. C'est facile d'être pardonné. Regardez-les, tous ces chrétiens-là en Europe, regardez tout ce qu'ils font là, ils font n'importe quoi. Mais je dis ça, c'est pas des chrétiens, ça. C'est du cinéma. C'est pas ça, le vrai chrétien. Le vrai chrétien donne sa vie pour les brebis comme son sauveur. Il se met au service des âmes perdues, des malheureux, des riches comme des pauvres. Mais pourquoi? Pour qu'ils aillent au ciel. C'est ça le vrai enfant de Dieu. Alors il me dit, ça, je l'accepte. C'était un dur. C'était un costaud en plus. Ça, je l'accepte. Ça, chrétien comme ça va. Chers amis, il faut toujours honorer le Seigneur. Et même celui qui ne comprend pas vous honorera. Il pourra changer un jour. Quand? Quand du haut du ciel se révélera la grâce de Jésus dans sa vie. Mais nous, nous sommes d'humbles serviteurs. Soyez d'humbles serviteurs pour votre Maître et vous serez récompensés. Vous aurez des couronnes au ciel. Gloire à Dieu, au nom de Jésus.